Mathilda III, de Roald Dahl. Le fantôme. Après l'épisode de la superglue, un calme relatif régna dans la maison des Vertdebois pendant une semaine. Monsieur Vertdebois avait été sans nul doute touché par l'affaire du chapeau et semblait avoir perdu l'envie de se vanter et de rudoyer les autres. Mais soudain, il se déchaîna de nouveau. Peut-être la journée avait été-elle mauvaise au garage et n'avait-il pas assez vendu de vieilles voitures déglinguées. Bien des sujets d'irritation peuvent assaillir un homme qui rentre le soir de son travail. Et une épouse avisée sait reconnaître les signes avant-coureurs de la tempête et laisser son mari en paix jusqu'à ce que son humeur s'apaise. Lorsque M. Vertdebois rentra du garage ce soir-là, son visage était aussi sombre qu'un ciel d'orage, et de toute évidence, quelqu'un allait bientôt sentir passer la bourrasque. Madame Vertdebois flaira tout de suite le danger et s'arrangea pour disparaître. Il pénétra alors au pas de charge dans le salon. Mathilda, pelotonnée au fond d'un fauteuil, était plongée dans sa lecture. M. Vertdebois alluma sur le bouton de la télévision. L'écran s'alluma. Les haut-parleurs se mirent à brailler. M. Vertdebois fixa sur Mathilda un œil torve. Elle n'avait pas bougé. Depuis longtemps, elle s'était entraînée à fermer les oreilles au vacarme de l'infernal appareil. Elle continua donc à lire, ce qui exaspéra son père. Peut-être était-il d'autant plus furieux qu'il voyait sa fille tirer plaisir d'une activité pour lui inaccessible. « T'arrêteras donc jamais de lire ?» lui lança-t-il. « Oh, bonjour papa, » fit-elle d'un ton sucré. « Tout s'est bien passé aujourd'hui ?»«
Qu'est-ce que c'est que cette idiotie ?» dit-il en lui arrachant le livre des mains.
« Ce n'est pas une idiotie, papa, ça s'appelle le poney rouge. C'est John Steinbeck, un écrivain américain. Si tu essayais de le lire, ça te plairait beaucoup ?»«
Une saleté, oui !» s'écria M. Vertdebois. « Si c'est d'un américain, c'est sûrement une saleté. De la saleté, oui, c'est tout ce qu'ils savent écrire, les américains. »«
Mais non, papa, c'est très beau, je t'assure, ça raconte. »«
Ce que ça raconte, je veux pas le savoir, » aboya M. Vertdebois. « De toute façon, j'en ai plein le dos de tes bouquins. Trouve-toi donc quelque chose d'utile à faire pour changer. »
Et avec une violence alarmante, il se mit à arracher par poignées les pages du livre pour les jeter dans la corbeille à papier. Mathilda resta figée d'horreur. Son père continua de plus belle à mettre le livre en pièces. Sans doute éprouvait-il une sorte de jalousie. Comment ose-t-elle, semblait-il, dire à chaque page arrachée, comment ose-t-elle se complaire à lire des livres alors que j'en suis incapable ?
C'est un livre de la bibliothèque, cria Mathilda. Il n'est pas à moi, je dois le rendre à Madame Folio.
Bien, tu lui en rachèteras un autre, voilà tout, dit le père, continuant à déchiqueter le livre. Tu économiseras sur ton argent de poche jusqu'à ce que tu aies assez dans ta tirelire pour en acheter un autre à ta chère Madame Folio. »
Sur quoi il jeta la couverture maintenant vide du volume dans la corbeille et sortit à grands pas de la pièce, laissant tonitruer la télévision.
À la place de Mathilda, la plupart des enfants auraient fondu en larmes, mais pas elle. Immobile, très pâle, elle resta assise à réfléchir. Elle semblait fort bien savoir que larmes ou rancœur ne la mèneraient nulle part. La seule réaction sensée lorsqu'on est attaqué, c'était, comme disait Napoléon, de contre-attaquer. Déjà, l'esprit subtil de Mathilda élaborait un autre châtiment adéquat à l'intention du calamiteux auteur de ses jours. À la base du plan qu'elle était en train de mijoter se posait une question. Le perroquet de Fred parlait-il aussi bien que le prétendait son petit maître ? Fred était un ami de Mathilda. C'était un petit garçon de 6 ans qui habitait au coin de la rue et depuis des jours et des jours, il ne cessait pas de vanter les dons qu'avait pour la parole le perroquet dont son père lui avait fait cadeau. Donc, l'après-midi suivant, sitôt Madame Vertdebois partit dans sa voiture pour aller jouer au loto, Mathilda alla rendre visite à Fred. Après avoir frappé à sa porte, elle lui demanda s'il serait assez gentil pour lui montrer le fameux oiseau. Fred la fit monter dans sa chambre où dans une grosse cage trônait un superbe aras bleu et jaune. « Le voilà, dit Fred. Il s'appelle Fred. »«
Fais-le parler, dit Mathilda. »«
On ne peut pas le faire parler, dit Fred. » Un peu de patience. Il parle quand il en a envie. Mathilda se résigna à attendre. Soudain, le perroquet cria. « Salut, salut, salut !» On aurait juré une voix humaine. « Fantastique !» dit Mathilda. « Qu'est-ce qu'il sait dire d'autre ?»«
Numérotez vos abattis !» dit le perroquet, avec d'étonnantes intonations caverneuses.
« Il dit toujours ça, » remarqua Fred.
« Et quoi encore ?» demanda Mathilda.
« C'est à peu près tout, » répondit Fred. « Mais c'est déjà pas mal, non ?»«
C'est fabuleux !» dit Mathilda. « Tu veux bien me le prêter juste pour un soir ?»
« Ah non, dit Fred, sûrement pas.
Je te donnerai tout mon argent de poche de la semaine prochaine. »
Cela changeait tout. Fred réfléchit quelques secondes.
« D'accord, déclara-t-il, si tu me promenais de me le rendre demain. » Mathilda regagna sa maison vide d'un pas rendu légèrement vacillant par le poids de la grande cage qu'elle tenait à deux mains. Dans la salle à manger, il y avait une vaste cheminée et Mathilda entreprit d'y cacher la cage et son oiseau. Non sans peine, elle finit par l'y coincer suffisamment haut.
« Salut, salut, salut !» lui lança le perroquet. « Salut, salut !»
« Tais-toi donc, bécasson !» riposta Mathilda. Et elle alla laver ses mains pleines de suie. Ce soir-là, tandis que la mère, le père, le frère et Mathilda dînaient comme d'habitude au salon devant la télévision,
Une voix forte et claire retentit dans le vestibule venant de la salle à manger.
« Salut, salut, salut !»«
Henri !» s'écria la mère devenant toute blanche. « Il y a quelqu'un dans la maison, j'ai entendu une voix. »«
Moi aussi, » dit le frère.
Mathilda se leva d'un bond et alla éteindre la télé.
« Chut !» fit-elle.
« Écoutez !» Ils cessèrent tous de manger sur le qui-vive tendirent l'oreille.
« Salut, salut, salut !» reprit la voix.
« Ça recommence !» cria le frère.
« Des voleurs !» fit la mère d'une voix étranglée. « Ils sont dans la salle à manger !»«
Oui, je crois !» dit le père assis très raide sur sa chaise.
« Bien, va les attraper, Henri !» reprit la mère. « Vas-y donc, tu les prendras sur le fait !»
Le père ne bougea pas. Il ne semblait nullement pressé d'aller jouer les héros. Son visage vira au grisâtre.
« Alors, tu te décides ?» insista la mère. « Ils doivent être en train de faucher l'argenterie !»
Monsieur Verdebois s'essuya nerveusement les lèvres avec sa serviette.
« Si on y allait tous ensemble » proposa-t-il enfin. « C'est ça, allons-y, dit le frère, tu viens, maman ?»«
Pas doute, ils sont dans la salle à manger, » chuchota Mathilda, « j'en suis certaine. » La mère s'empara d'un tisonnier dans le foyer de la cheminée. Le père s'arma d'un club de golf posé dans un coin. Le frère saisit sur une table une lampe qu'il prit soin de débrancher. Mathilda prit le couteau avec lequel elle mangeait et tous quatre se dirigèrent sur la pointe des pieds vers la porte de la salle à manger. Le père se tenant à distance respectueuse du reste de la famille.
« Salut, salut, salut !» lança de nouveau la voix.
« Allez !» s'écria Mathilda et elle fit irruption dans la pièce, son couteau brandi à bout de bras.
« Oh les mains !» hochonna-t-elle, « vous êtes pris !»
Les autres la suivirent agitant leurs armes diverses. Puis ils s'arrêtèrent, regardèrent autour d'eux. Personne.
« Il n'y a pas de voleur ici !» déclara le père avec un vif soulagement.
« Je l'ai entendu, Henri !» clapit la mère d'une voix toujours aussi chevrotante. « J'ai bien entendu sa voix et toi aussi ?»«
Je suis sûre de l'avoir entendu, appuya Mathilda, il est ici, quelque part. » Elle se mit à chercher derrière le canapé, derrière les rideaux. C'est alors que la voix s'éleva de nouveau voilée et rauque cette fois-ci.
« Numérotez vos abattis » dit-elle, « numérotez vos abattis !»
Ils sursautèrent tous, y compris Mathilda qui jouait fort bien la comédie. Ils inspectèrent toute la pièce. Il n'y avait toujours personne.
« C'est un fantôme !» dit Mathilda.
« Oh, mon Dieu !» s'exclama la mère en se jetant au cou de son mari. « Je sais que c'est un fantôme !» insista Mathilda. « J'ai déjà entendu ici la salle à manger hantée. Je croyais que vous le saviez. »«
Au secours !» hurla la mère, étranglant à demi son époux.
« Moi, je sors d'ici !» bafouilla le père, plus gris que jamais. Tous prirent la porte des trompettes en claquant la porte derrière eux. Le lendemain après-midi, Mathilda s'arrangea pour extirper de la cheminée un perroquet plutôt grincheux et saupoudrer de suie, et pour le sortir de la maison sans être vu. Elle le fit passer par la porte de derrière et trotta avec la clage jusqu'à chez Fred. « Alors, il s'est bien conduit ?» lui demanda Fred.
« On s'est beaucoup amusé avec lui, » assura Mathilda. « Mes parents l'ont adoré. »
Un peu d'arithmétique. Mathilda aurait sincèrement voulu que ses parents fussent bons, affectueux, compréhensifs, honnêtes et intelligents. Qu'ils ne possèdent aucune de ces qualités, il fallait bien qu'elle s'y résigne, mais ce n'était pas de gaieté de cœur. Cependant, le nouveau jeu qu'elle avait inventé pour les punir l'un et ou l'autre chaque fois qu'il lui faisait des crasses, continue à lui rendre l'existence un peu plus supportable. Étant très petite et très jeune, le seul pouvoir que Mathilda put exercer contre eux était celui de l'intelligence. Du seul point de vue de l'ingéniosité et de la vivacité d'esprit, elle les dépassait sans peine de 100 coudées. Mais il n'en demeurait pas moins que, comme toutes les petites filles de 5 ans dans n'importe quelle famille, elle était toujours obligée de faire ce qu'on lui disait, si saugrenue que puissent être les ordres qu'elle recevait. Ainsi, était-elle toujours contrainte de manger son dîner sur un plateau devant la télévision détestée, et elle devait toujours rester seule l'après-midi pendant les jours de semaine. Et chaque fois qu'on lui intimait l'ordre de se taire, elle n'avait pas d'autre choix que d'obéir. Ce qui lui avait jusque-là permis de garder son sang-froid, c'était le plaisir d'imaginer et d'appliquer à ses ennemis les ingénieuses sanctions de son cru, d'autant qu'elles semblaient efficaces au moins pour de courtes périodes. Le père en particulier devenait moins bravache et moins odieux durant plusieurs jours lorsqu'il avait reçu sa dose de recettes magiques de Mathilda. L'incident du perroquet dans la cheminée avait sérieusement douché ses parents. Et pendant une bonne semaine, ils montrèrent un minimum d'égards envers leur petite fille. Mais là, cette accalmie ne pouvait durer. L'accrochage suivant se poursuivit un soir dans le salon. Monsieur Verdebois venait de rentrer du travail. Mathilda et son frère étaient tranquillement assis sur le canapé, attendant que leur mère apportât les plateaux du dîner. La télévision n'avait pas encore été mise en marche. Là-dessus, Monsieur Verdebois fit son entrée en costume criard à carreaux avec une cravate jaune. Les motifs orange et vert de la veste et du pantalon étaient à hurler. Il avait tout d'un bookmaker de bas étage endimanché pour le mariage de sa fille. Et ce soir-là, il paraissait visiblement content de lui. Il se laissa tomber dans un fauteuil, se frotta les mains et d'une voix forte s'adressa à son fils. « Bien, mon garçon, dit-il, ton père n'a pas perdu sa journée. Il est nettement plus riche ce soir que ce matin. Rends-toi compte, il a vendu 5 voitures et chacune avec un joli bénéfice. Sueur de bois dans la boîte, perceuse dans la graine du compteur, un coup de peinture ici et là, plus 2 ou 3 autres petits trucs et les idiots sont bousculés pour acheter. »
Il tira de sa poche un petit bout de papier froissé et l'examina. « Écoute, mon petit, » dit-il, tourné vers son fils, et dédaignant ostensiblement Mathilda. « Étant donné qu'un jour je vais faire de toi mon associé, il faut que tu sois capable de calculer les bénéfices quotidiens réalisés par l'affaire. Va donc chercher un cahier, un crayon, voyons comment tu te débrouilles. » Docilement, le fils sortit de la pièce et revint avec ce qu'il fallait pour écrire. « Note les chiffres que je vais te donner, » dit le père tout en consultant sa feuille de papier. « La première voiture, je l'ai payée 278 livres et je l'ai revendue 1425. Tu y es ?» Le gamin de 10 ans inscrivit avec une lenteur appliquée les deux nombres. « La deuxième voiture, » poursuivit le père, « m'a coûté 118 livres et je l'ai revendue 760. C'est noté ?»«
Oui, papa, » dit le fils, « c'est noté. »
« Pour la troisième voiture, j'ai déboursé 111 livres et j'en ai tiré 999,50 livres. »«
Tu peux répéter, » dit le fils, « combien tu l'as vendu ?»
999,50 livres, dit le père. Et ce chiffre-là, au fait, c'est un de mes petits trucs pour embobiner le client. Ne jamais demander 1000 livres, toujours dire 999,50 livres. Ça paraît beaucoup moins sans l'être astucieux, non ?
Très, dit le fils, t'es fortiche, papa.
La voiture numéro 4 m'a coûté 86 livres. C'était une véritable épave et je l'ai revendue 699,50 livres.
Pas trop vite, dit le fils en notant les nombres indiqués. Ça y est, j'y suis.
« La cinquième voiture m'a coûté 637 livres et je l'ai revendue 1649,50 livres. Tu as bien tout noté ?»«
Oui, papa, » répondit le gamin en finissant d'écrire laborieusement penché sur son cahier.
« Très bien, » dit le père. « Maintenant, calcule le bénéfice que j'ai fait sur chacune des cinq voitures et additionne le total. Ensuite, tu pourras me dire combien on a empoché aujourd'hui cet être de génie qu'est ton père. »«
Ça fait beaucoup de sous, » dit le gamin.
« Naturellement, ça fait beaucoup de sous, » dit le père. « Mais quand on traite de grosses affaires comme moi, il faut être un champion de l'arithmétique. » « Moi, tu comprends, j'ai quasiment un ordinateur dans le crâne. Il m'a fallu au moins 10 minutes pour faire l'opération. »«
Tu veux dire que tu l'as faite de tête, papa ?» s'étonna le gamin, les yeux comme des soucoupes.
« Pas exactement, » répondit le père. « Personne ne pourrait faire ça. Mais ça ne m'a pas pris longtemps. Quand tu auras fini, tu me diras quel bénéfice j'ai fait aujourd'hui. J'ai le total inscrit ici, je te dirai si tu tombes juste. »«
Papa, » dit Mathilda d'un ton calme, « tu as gagné exactement 4303 livres et 50 pence. »«
La paix, » dit le père, « ton frère et moi, on s'occupe de haute finance. »
« Mais papa,
tais-toi, » aboya le père, « cesse de jouer aux devinettes, tâche de réfléchir un peu. »«
Voilà ta réponse, papa, » insista Mathilda avec douceur. « Si tu ne t'es pas trompé, ça doit faire 4303 livres et 50 pence. »«
C'est le chiffre que tu as trouvé ?»
Le père jeta un coup d'œil au papier dans sa main. Puis il sembla devenir soudain tout raide. Il y eut un silence.
« Répète-moi ça, » dit-il au bout d'un moment.
« 4303 livres, 50 pence, » répéta Mathilda. Il y eut un autre silence. Le visage du père de Mathilda virait au rouge sombre.
« Je suis sûre que c'est ça, » ajouta Mathilda. « Espèce de petite tricheuse !» hurla brusquement le père, l'index pointé sur sa fille. « Tu as regardé mon papier ? Tu as lu en douce ce que j'avais noté ?»«
Papa, je suis de l'autre côté de la pièce, » dit Mathilda. « Comment veux-tu que j'ai pu voir ?»«
Ne te paye pas de ma tête, hein ?» cria le père. « Bien sûr que t'as regardé, t'as forcément copié. Personne au monde ne pourrait donner une réponse comme ça, surtout une fille. Vous êtes une petite truqueuse, mademoiselle, voilà ce que vous êtes, une truqueuse et une menteuse. »
À ce moment, la mère fit son apparition portant un grand plateau avec les quatre dîners. Cette fois, c'était des saucisses frites que Madame Verdebois avait achetées à la boutique de saucisses frites en rentrant de sa partie. Ces après-midi de loto l'épuisaient tant, semble-t-il, physiquement et moralement, qu'elle n'avait jamais l'énergie de préparer un vrai repas du soir. Et il n'échappait à l'insipide contenu des barquettes d'aluminium que pour se retrouver devant d'épouvantables saucisses frites.
« Pourquoi es-tu si rouge, Henri ?» s'inquiète-t-elle en portant le plateau sur une petite table. « Ta fille est une tricheuse et une menteuse, » dit le père en prenant son assiette de saucisses frites qu'il posa sur ses genoux. « Allez, mets la télé en marche, que tout le monde la boucle. »